Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie pour moi donc de pouvoir porter la parole de Dieu ce matin. Et à ce sujet, je vous invite à prendre votre Bible dans Galates. Galates chapitre 2, versets 6 à 10. Galates chapitre 2, versets 6 à 10. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Verset 10, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Je crois qu'il est nécessaire de faire un bref rappel, hein, déjà pour notre souvenir, mais aussi pour nous aider à suivre les fils directeurs des pensées de l'apôtre Paul dans cet épître, hein, pour mieux saisir ce qui va suivre maintenant. Rappelons-nous, tout au début, donc les faux docteurs avait mis en doute l'apostolat de Paul, cherchant à prouver qu'il n'était pas un apôtre. Et donc son enseignement n'avait aucune autorité valable. Et alors, nous avons vu que pour défendre son apostolat, Paul va expliquer dans cette lettre comment a-t-il été fait apôtre. C'est au verset 1 du chapitre 1. Non, j'étais apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Il faut quand même comprendre que si Paul n'était pas un apôtre de Jésus-Christ, alors les hommes pourront rejeter l'Évangile. Et les faux docteurs n'hésitent même pas un instant de le faire. Et donc, Paul défend son autorité apostolique, non pas pour sa gloire, mais pour défendre l'Évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier stratagème, hein, atteindre son apostolat. Ils ne se sont pas arrêtés là, les faux docteurs, mais ils vont maintenant aller attaquer l'Évangile que Paul prêche, hein, dans le but de jeter le discrédit sur son message et aussi pour diminuer son autorité face aux apôtres. Et face à cela, donc, nous lisons, et c'est la raison d'être du chapitre 1, versets 11 à 24, où Paul va montrer quelle était l'origine de l'Évangile qu'il prêche. Il dit, ça ne vient pas de l'homme, mais ça vient directement de Dieu par révélation. Et c'est pour cela que nous voyons, en lisant Galates, on comprend mieux pourquoi Paul va étayer les détails des événements de sa propre vie, son histoire personnelle, et il va relater, du chapitre 1, vous pouvez regarder, du verset 13 à 14, il va parler qui était Paul avant sa conversion. On peut résumer ainsi qu'il était un fanatique. Il s'était voué, consacré à défendre le judaïsme, surtout pas l'Évangile. Et il persécutait Christ et son Église. Il ne va pas s'arrêter là, il va continuer dans le verset 15 et 16. Il va relater cette fois-ci les événements qui accompagnent sa conversion. Il va dire, il va souligner que c'est de l'initiative divine, hein, qu'il est venu au Seigneur. Et par curiosité, vous pouvez faire le contraste entre le verset 13 et 14, où le sujet des verbes, hein, c'est « je, je, je ». Et maintenant, grâce à cette intervention de Dieu, le sujet du verbe change au verset 15 et 16. Maintenant, c'est Dieu qui est le sujet des verbes, et non plus Paul. Vous voyez ? Et il va continuer, non seulement avant sa conversion, lors de sa conversion, mais après sa conversion. C'est le verset 16 à 24 du chapitre 1. Et quel est le but? Pourquoi il détaille cet événement? Parce qu'il dit, après sa conversion, il passait beaucoup de temps en Arabie, en Syrie, en Cilicie. Donc, il n'a pas appris l'évangile qu'il prêche de la part des apôtres de Jérusalem, mais directement de Dieu. Donc, vous voyez, toutes ces choses sont mises les uns après les autres pour défendre l'évangile qu'il prêche, qu'il ne venait pas de l'homme, mais directement de Dieu. Donc, troisième stratagème des faux docteurs maintenant. On a attaqué son apostolat, on a attaqué la source ou l'origine de l'évangile, et pourquoi pas maintenant toucher aux relations que Paul avait avec les cercles apostoliques de Jérusalem, dans le but de discréditer son évangile. Maintenant, on va toucher à la relation de Paul avec les autres apôtres. Et comment peut-on dire ça? Parce que ils veulent insinuer l'idée que l'évangile que Paul prêche est différent de l'évangile que les apôtres de Jérusalem prêchaient. C'est subtil. Parce qu'en affirmant ainsi, les apôtres, ils veulent sous-entendre qu'ils se contredisaient, Paul et les autres, à Jérusalem. Alors, dans le but de rompre l'unité qui existait entre les apôtres. Donc, un auteur, ça me fait sourire quand il disait « Leur jeu de ces faux docteurs ne consiste pas à déshabiller Pierre pour habiller Paul, mais à célébrer Pierre pour contrarier Paul. » Et alors, nous avons le passage que nous avons lu ce matin, où Paul va maintenant démontrer que l'évangile qu'il prêche est identique à ce que prêchent les apôtres à Jérusalem. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire, Paul? Paul va raconter, c'est ce que vous lisez à partir du verset 9, là, un entretien ou une consultation en privé à Jérusalem avec Jacques, Jean et Pierre. Et il était accompagné par Tite et Barnabas en ce moment-là, et ça s'était passé il y a 14 ans après sa conversion. Et ce matin, je vous invite donc à ouvrir votre Bible, du passage que nous avons lu, et regardons de près qu'est-ce qui s'était passé lors de cet entretien privé entre ces personnes. Et au passage, j'intitulerai ce message « Un entretien privé » décisif pour le sort de l'évangile de Jésus-Christ et l'avenir de l'Église. Et Paul mentionne donc dans ces passages, du verset 6 à 10, le résultat, je dirais deux résultats, de cet entretien qu'il avait eu avec Jacques, Pierre et Jean à Jérusalem. Et il était accompagné par Tite et Barnabas. Deux résultats que nous pouvons classer en deux groupes. Il y a le résultat, je dirais, négatif. Regardez votre Bible au verset 3. « Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. » Ne pas. C'est pour ça que j'ai mis résultat négatif. « Tite, qui était avec moi, qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. » Deuxième résultat de cet entretien négatif, « Ceux qui sont les plus considérés ne fut même pas contraint de se faire... Pardon, Tite ne fut même pas contraint de se faire circoncire. » Ne pas, vous voyez. Et les deux résultats positifs qui sortent de cette... Les plus considérés ne m'ont pesé rien. Il y a les deux résultats négatifs, excusez-moi. Tite ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et les plus considérés, ils parlent de Jacques, de Pierre et de Jean, ne m'imposèrent rien. Ça, c'est les résultats négatifs. Maintenant, deux résultats positifs dans le passage que nous venons de lire. En parlant donc des colonnes de Jérusalem, ils me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Une affirmation. Et deuxième résultat que je qualifie de positif, ils nous recommandèrent de nous souvenir des pauvres. Une recommandation en signe de confiance dans ces deux personnes de faire cette œuvre. Sans tarder, donc, nous allons commencer à regarder les... Pardon. Excusez-moi. Donc, je vais laisser ça pour suivre donc, le message. Sans tarder, donc, nous allons regarder le premier des résultats négatifs de cet entretien. Paul donc, donne un récit de son voyage à Jérusalem. Et vous savez, en regardant la carte, s'il a fait effectuer ce voyage par voie terrestre, c'est-à-dire d'Antioche à Jérusalem, un trajet qui mesure à peu près 500 km à vol d'oiseau, il aurait pris au moins un mois à le faire avec toutes les difficultés que cela poserait comme danger. Mais en dépit de ces difficultés, Paul a entrepris le voyage, non pas parce que les apôtres l'avaient convoqué, mais parce que Dieu le voulait. Et j'aimerais que vous regardiez votre Bible, au verset 2 du chapitre 2. Dieu le voulait parce que d'après une révélation que j'y montais. Très important, nous allons y revenir. Et lors de cette rencontre en privé, il a étayé son évangile devant les apôtres. Au verset 2, deuxième partie, il écrit « Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier, d'où en privé, à ceux qui sont les plus considérés. » Ma question, et c'est dont on doit se poser, pourquoi a-t-il fait cela ? Certainement pas parce qu'il avait un doute sur l'évangile qu'il prêchait. Il n'avait certainement pas besoin d'une quelconque assurance de la part des apôtres de Jérusalem, parce qu'il avait déjà proclamé l'évangile pendant 14 ans après sa conversion. Donc il n'a pas eu besoin de l'autorisation, de l'approbation des apôtres de Jérusalem, mais tout simplement, Paul accordait une grande importance au soutien et à l'encouragement des autres apôtres. Quelque chose qui est à garder dans l'esprit lors de cet entretien en privé, il y a deux aspects que nous allons souligner. D'abord, important lors de cette rencontre en privé, les compagnons que Paul a choisi de venir avec lui et l'évangile qui présentait devant les apôtres. Pourquoi je peux dire que c'est important ces deux aspects? D'abord, il a pris avec lui Tite. Vous savez qui est Tite? Tite, c'est d'origine non-juif, il est grec. Et d'autre part, il va porter l'évangile qui était destiné aux non-juifs. Vous voyez les deux choses en parallèle, un non-juif, et Paul va présenter l'évangile qui prêche aux non-juifs. Et la question qui se pose, c'est ainsi, comment vont-ils réagir les apôtres de Jérusalem face aux compagnons d'origine non-juive de Paul et sa mission par rapport aux non-juifs. Il faut ne pas oublier que nous sommes au début de l'histoire de l'Église qui, à Jérusalem, est en majorité juive. Ça, c'est très important de le souligner. Et donc, la question dont je me suis posé, et j'imaginais que c'est dans les pensées de Paul, quand on voit les fils directeurs de ses pensées, vont-ils, en parlant des apôtres de Jérusalem, recevoir Tite comme un frère ou va-t-il le rejeter parce qu'il est incirconcis? Vous voyez la problématique? Deuxième chose, les apôtres de Jérusalem vont-ils approuver l'évangile que Paul prêche ou vont-ils chercher à le modifier ou à la rejeter? Ce qui nous amène donc à traiter le premier résultat négatif ici, à savoir le sort de Tite, qui est grec, un non-juif, non circoncis. Je vous ai dit tout à l'heure au verset 2, que c'est intéressant qu'il n'est pas venu comme cela, mais Dieu, par une vision, l'a poussé à venir dans cette consultation privée. Et il a choisi Tite pour l'accompagner. Et donc, ce n'est pas un hasard. Parce que dans cet entretien, on a donc devant les apôtres de Jérusalem un non-juif, un circoncis, mais un véritable croyant. Alors, que vont-ils faire ces apôtres? Vont-ils rejeter Tite parce qu'il est incirconcis ou vont-ils le recevoir comme un frère en Christ? Et c'est là que je vois l'importance de la présence de Tite qui n'était pas venu là par hasard, comme Dieu l'a voulu. Paul l'a demandé de venir l'accompagner. Pourquoi? Parce qu'il sert de cas de colle, hein, si on peut dire ça, car sa situation permet d'établir la vérité de l'évangile face au faux évangile, ou ce que Paul qualifie un autre évangile déjà des judaïsants. Qu'est-ce qu'ils enseignaient, ces judaïsants? Ils enseignaient que les non-juifs devront être circoncis pour être sauvés. Rappelez-vous des messages avant que pour eux, il faut être juif, donc la circoncision, mais il faut vivre en juif, d'où judaïser. La question est là pour être sauvé. Et vous savez, les judaïsants, en ce moment, cette rencontre, ils se sont infiltrés, hein, et ils insistaient que Tite soit circoncis. Et si vous lisez dans Actes chapitre 15, hein, nous savons dans le programme du parti déjà dit judaïsant, un slogan qu'ils portent partout, le slogan peut être résumé ainsi, Actes 15 verset 1, « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Ça c'est leur message, leur slogan, et ils défendent à fond. « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Et vous savez, lors de l'entretien, qu'est-ce qui s'était passé? D'après ce que nous venons de voir tout à l'heure, Tite, d'origine païenne, n'était pas obligé d'être circoncis, c'est-à-dire à se soumettre au rite de la circoncision. Je lis au verset 3 du chapitre 2, « Mais Tite qui était avec moi, qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncis. » Quelle belle victoire, pourrons-nous dire, face aux judaïsants, n'est-ce pas? Mais le passage montre que ce n'était pas à n'importe quel prix. Ce n'était pas à n'importe quel prix, parce que quand l'évangile était attaqué, sa vérité, Paul était résolu à maintenir à tout prix sa résistance face aux judaïsants. Et vous lisez dans le verset 5 du chapitre 2, Paul dit, « Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous en parlant des Galates. » Donc, il a affronté avec succès la pression des judaïsants et les apôtres n'étaient pas obligés de circoncire Tite. Une chose que je voulais souligner ici, et c'est un point important, la question n'est pas seulement d'être circoncis ou être incirconcis, la question n'est pas de suivre la coutume juive ou non, mais la vérité de l'évangile. Et s'il est en jeu dans cette situation. Pourquoi? Parce que imaginez un instant, si Tite était obligé à se faire circoncire, cela reviendrait à affirmer qu'en plus de la foi, il fallait aussi obéir à la loi de Moïse pour être sauvé. Vous voyez, les choses sont très importantes et l'enjeu est de taille. Ce n'est pas seulement question de circoncision, mais c'est question de la vérité de l'évangile, où on va dire la foi plus les œuvres de la loi, ou bien la foi seule. Et ce qui nous amène à parler du deuxième résultat négatif, à savoir qu'est-ce qui se passe concernant au sort de l'évangile maintenant. Nous avons dit que Paul est venu présenter à cette petite comité donc l'évangile qui prêchait aux païens. Et comme la question que nous nous sommes posée, est-ce que les apôtres maintenant vont accepter ce que Paul présente? Ou est-ce qu'il va dire, non Paul, il manque quelque chose, il faut rajouter. Ou non Paul, ici tu as tout à fait tort, il faut supprimer. C'est pas ça. Regardez au verset 6, il dit, ceux qui sont les plus considérés. Qui sont ces plus considérés? Regardez au verset 9, il va parler de Pierre, Jacques, et Jean, qui était dans la petite comité. Ceux qui étaient les plus considérés ne m'imposèrent rien. Et c'est important de s'arrêter un instant sur ce rien. Les plus considérés ne m'imposèrent rien. Mais qu'est-ce qu'on entend par rien? Tout simplement, rien de plus. Ou pas d'enseignement supplémentaire. En d'autres termes, les apôtres ne trouvent aucun défaut à l'évangile de Paul. Ils n'y ont pas à ajouter la circoncision, pas besoin, ni l'embellir d'une autre manière. Ils ne déclarent pas à Paul, ton évangile est vrai, mais incomplet. Non, Ils ne changeaient absolument rien et rien. Ainsi, de nouveau, vous imaginez bien, les Judas, ils ont cette fois-ci encore un perdu sur ce terrain-là aussi. La question, et c'est ce que nous devrons nous poser, mais quelle est l'importance pour nous aujourd'hui de savoir si tu es un circoncis ou circoncis? Quelle est pour nous aujourd'hui l'importance des résultats de cet entretien en privé? Nous avons dit que Dieu qui a pris l'initiative de cette rencontre, et Paul l'a eu par révélation divine, et c'est pour ça qu'il est parti avec Tite et Barnabas. Vous savez, et c'est là que j'attire votre attention, pourquoi il y a un impact direct pour nous aujourd'hui, ce qui s'était passé il y a 2000 ans à peu près. Vous savez que le résultat de ce qui sortait de cet entretien en privé, sur le plan du salut pour les païens que nous sommes, est décisif. Je répète, le résultat issu de cet entretien en privé concernant le sujet sur le salut pour les païens que nous sommes est décisif. Pourquoi ? Parce que quand on lit l'histoire, ce qui s'était dit dans cette petite comité va servir de préparation pour la conférence officielle où sera proclamé plus tard le sort du monde païen tout entier, l'avenir tout entier de l'Église de Christ lors de concile à Jérusalem. Et vous pouvez lire ça dans Actes 15, versets 24 et 29. Vous voyez, la petite réunion, Dieu a prévu servir de préparation pour trancher des questions. Faut-il être circoncis pour être sauvé? Donc c'est important. Il y a un impact direct pour nous aujourd'hui. Et on peut dire, gloire à Dieu! Et nous devions, je dirais, sans cesse être reconnaissants pour le salut par grâce. Et par la foi seule, sans qu'on ait besoin de judaïser pour être sauvé. Rappelons-nous, judaïser, ça veut dire pratiquer les œuvres de la loi. Ce sont quatre réalités, rappelez-vous. C'est la circoncision, le respect du sabbat, la cacheroute, ça veut dire vivre des régimes alimentaires, ce qui est prescrit et ce qui est interdit. Et respecter les fêtes, c'est ça. Il faut rajouter d'après les judaïsants. Et ce qui nous amène maintenant, en voyant qu'il y a un lien direct, c'est ce qui s'est passé dans cette petite comité qui va trancher de notre sort concernant le salut des païens. Regardons maintenant les deux résultats positifs. Le premier résultat positif réside dans le fait que dans le verset 9, Paul le dit ainsi. « Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux, vers les circoncis. » Une petite remarque, vous voyez ici, il ressort clairement que les apôtres de Jérusalem et Paul ne prêchaient pas deux évangiles. Mais il prêche un seul évangile, mais avec deux champs missionnaires. Il n'y a pas deux évangiles, un seul évangile avec deux champs missionnaires pour les païens et pour les circoncis. Et si vous lisez encore le verset 7 et 8, c'est encore plus clair. Regardons verset 7 et 8 du chapitre 2. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, ça veut dire par des juifs, a aussi fait de moi l'apôtre des païens, c'est-à-dire les non-juifs. Donc Paul soutient ici que quelques-uns des apôtres, dans cette petite comité, ont reconnu et affirmé son autorité venant de Dieu, en lui donnant la main d'association. Mais qu'est-ce que ça signifie ce geste ? Au Proche-Orient, à l'époque, ce geste constituait un vœu solennel d'amitié et la marque d'un partenariat. C'est là un signe d'entente et de confiance qui indiquait à tous ceux présents qu'ils acceptaient la répartition de leurs tâches, à savoir que les apôtres de Jérusalem avaient pour responsabilité évangéliser les Juifs Et Paul et Barnabas avaient le devoir d'apporter l'évangile aux non-juifs que sont les païens. Comme nous venons de lire, nous allions, nous, vers les païens. Et ça, quelque chose quand même à souligner. Une confirmation supplémentaire de l'appel divin de Paul pour ce ministère. Et regardons maintenant le deuxième résultat positif. Et c'est sous forme de requête. Et quand vous demandez des requêtes, ça démontre un signe de confiance, n'est-ce pas? Et nous lisons quelle était cette requête. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Nous souvenir des pauvres. Ce qui me frappe ici, c'est un rappel d'ordre pratique et non pas sous forme doctrinale. N'empêche que dans les épîtres, et nous verrons plus tard, ils vont enseigner ce qu'ils vont décrire ici, ce souvenir des pauvres. Pourquoi ce souvenir des pauvres? Il faut se rappeler qu'est-ce qui s'était passé. Regardez votre Bible dans Actes chapitre 11. Actes chapitre 11, versets 27 et 30. Qu'est-ce qui s'était passé pour que d'un coup on va parler de ce souvenir des pauvres pour les soutenir sur le plan financier? Nous lisons dans Actes chapitre 11, versets 27 à 30. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Verset 28. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude, et les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Donc, à l'église d'Antioche, c'est là que Paul a introduit pour la première fois le concept des offrandes spéciales pour les pauvres de Jérusalem suite à cette famine. Pourquoi? C'est important dans le but de soulager les chrétiens à cause de cette famine. Et c'est pour cette raison que Paul et Barnabas se trouvaient plus tard à Jérusalem pour venir en aide à eux sur le plan matériel ou financier. Et vous savez, il a dit bien, j'ai eu bien soin de faire parce qu'il va donner un projet, cette manière d'aider les chrétiens de la Judée, il va le transformer en projet pour les non-juifs, pour les églises constituées et formées des païens, hein, pour qu'ils puissent contribuer à des collectes pour venir en aide. Hein, nous pouvons le lire. Hein, en 1 Corinthiens 16, par exemple, versets 1 et 2, il va parler de cela comme un projet maintenant. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Et verset 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. C'est un projet que Paul avait à cœur pour honorer sa parole, hein, avec ses apôtres à Jérusalem. Et dans Romains 15, versets 25 et 27, c'est encore plus clair. Hein. Il va dire, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Et verset 26, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Donc, c'est clair, Paul a exhorté les églises les plus prospères, hein, de la Macédoine et l'Achaïe, pour souligner, former des non-juifs, hein, en majorité, à soutenir les églises pauvres de la Judée, en majorité formées par les juifs. Oui, de telles offrandes allaient soulager les souffrances humaines, mais plus que cela démontre l'intérêt que les chrétiens d'origine païenne portaient aussi l'aide indispensable aux chrétiens juifs. Non seulement leur don était comme un moyen d'entretenir et d'aider ces chrétiens qui souffraient, mais aussi pour démontrer la solidarité entre les juifs et les non-juifs dans la communion de l'Église. La question, avant de terminer, que je me suis posée et que vous posez aussi, Lala, Mais quel est l'intérêt pour nous aujourd'hui de savoir qu'il y avait un entretien privé il y a 2000 ans dans un petit coin de Jérusalem? Quel est l'intérêt pour nous aujourd'hui? Quel est l'intérêt pour nous de savoir si Tite est circoncis ou incirconcis? Ça nous paraît très éloigné, n'est-ce pas? Et sans aucun rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, d'une apparence, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que je voudrais, pour terminer, souligner deux principes de ce qui sortait de cet entretien que nous venons de regarder, les deux aspects du résultat. D'abord, il y a deux principes qu'on peut souligner. Premier principe, de cet entretien privé, comme nous l'avons déjà dit, restreint, qui était initié, voulu par Dieu, dépendait le sort du monde païen tout entier que nous sommes sur la question du salut. Il a été tranché. Est-ce que la question maintenant n'est plus à poser? Fallait-il être circoncis et vivre en juif pour être sauvé? C'est tranché. Et le concile de Jérusalem l'a tranché définitivement. Je vois la main de Dieu qui a initié cet entretien pour permettre d'avancer l'accomplissement du plan de Dieu pour le salut, nous les païens. Et nous sommes sauvés sur le même pied d'égalité, à savoir la foi seule en Jésus-Christ, sans rien de plus. Sans rien de plus. Donc, rien d'autre, ni la circoncision, ni l'application de la loi de Moïse a ajouté à la foi en Jésus-Christ pour les païens que nous sommes et qui se convertissent. Et c'est, comme je vous ai dit, la conclusion de ce concile qui s'était passé à Jérusalem. N'est-ce pas? Ainsi, c'est là que nous devrons nous réjouir, comment Dieu a mis les choses en place, et de se dire que maintenant, juifs et non-juifs sont sur le même pied d'égalité dans l'Église de Jésus-Christ. Même pied d'égalité. Gloire à Dieu. Deuxième principe que je vois qui sortait de ce que nous venons de nous entretenir, la vérité de l'Évangile, cette expression dans le verset 5 et 14, la vérité de l'Évangile doit toucher profondément notre vie, notre comportement. Ça, c'est ce que je vois. Et cela est bien illustré par cet exemple, je dirais positif à imiter, l'amour les uns pour les autres. Des chrétiens non-juifs, païens, venaient en aide pour ses frères juifs à Jérusalem qui étaient dans la souffrance et les grands besoins matériels. Et vous savez que ces personnes, Jacques et Jean, nous lisons dans leur épître qu'ils ont inscrit noir sur blanc ce qui était donné comme une recommandation d'ordre pratique. C'est l'enseignement que Jacques donne. J'aimerais que vous le lisiez dans Jacques chapitre 2, versets 14 à 17. Et Jean lui-même qui était présent à cette petite comité va dire la même chose en 1 Jean chapitre 3, versets 16 et 18. La nécessité pour les chrétiens de démontrer par leur vie la vérité de l'Évangile. Pour terminer, sans en aller recommencer à nouveau, il y a quelque chose d'intéressant parce que l'Évangile doit toucher notre vie. On le voit aussi dans le verset qui va suivre, et c'est l'objet du message de Michael dimanche prochain. Je vois un exemple négatif qui ne devrait pas être vu dans la vie des chrétiens pour démontrer la vérité de l'Évangile. Qu'est-ce qui s'était passé? On ne va pas recommencer, mais chapitre 2, versets 11 à 14. Pierre, dans son enseignement, croyait en l'Évangile, et clair comme Paul le prêchait, mais pas dans son comportement. Vous voyez, d'où le lien, l'Évangile a trait à notre vie au quotidien. Et pourquoi on peut dire ça? Il n'a pas rejeté les vérités de l'Évangile dans son enseignement, mais dans son comportement. Et Paul va le lui réprimander très sévèrement. Pourquoi? Parce que sa conduite était en contradiction avec la vérité de l'Évangile. Donc tout ceci